autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique venus, vous le savez, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Au programme aujourd'hui des voyages dans le temps et dans l'espace. Nous tenterons de remonter à la première seconde de l'univers, carrément, avec Fabrice Nicot dans Science et Avenir, avant d'être absorbé par des trous noirs qui pourraient être bien plus proches qu'on ne le pense, dossier trous noirs, ouvert par Philippe Hénarejos dans Ciel et espace. Nous embarquerons ensuite pour un voyage au centre de la Terre qui nous réserve quelques surprises dévoilées par Vincent Nouirega dans Epsilon et nous achèverons cette infusion de science en survolant les cités perdues d'Amazonie, de véritables cités-jardins oubliées, ignorées qui révèlent un tout autre passé, une autre histoire humaine dans la forêt amazonienne. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse sur notre petite planète ? Bienvenue. Bienvenue pour cultiver un esprit libre, ouvert et curieux, grâce notamment à cette si précieuse culture scientifique que nous partageons ensemble, chers amis auditrices et auditeurs. Alors comment la faire infuser, comment la diffuser ? En France, dans les médias, ça commence à être problématique. La suppression de plusieurs émissions scientifiques sur le service public, notamment sur France Télévisions, a de quoi nous alerter. 9 associations de journalistes spécialisés en sciences, environnement, médecine, agriculture, alertent dans une tribune publiée le 25 avril dernier dans le quotidien Libération sur ce très mauvais signal envoyé, notamment à propos de la lutte contre la désinformation. Bonjour Carole Châtelain.
Bonjour.
Les auditeurs et les auditrices d'Autour de la question vous connaissent car vous avez dirigé la rédaction de Science et Avenir. Vous êtes aujourd'hui présidente de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques dont je fais partie. Alors pourquoi avoir signé cette tribune pour nous partager votre inquiétude face à ces suppressions annoncées de la science à la télé et même parfois à la radio ?
Et tout à fait. Nous avions fait une tribune personnelle, notre association, la JSPI, qui n'avait pas eu de réponse de la part de France Télévisions. Nous disions déjà notre inquiétude. Donc, il nous a semblé que le sujet était si important actuellement face aux fake news, à la déferlante de fausses informations qui arrivent sur les réseaux sociaux, au développement de l'intelligence artificielle, et au moment où la science n'a jamais eu autant d'importance dans la société, il nous a semblé important de redire, et de le redire de façon extrêmement forte, notre inquiétude. C'est pour ça que nous nous sommes fédérés, et c'est la première fois que 9 associations venues d'horizons très divers, mais qui ont tous quelque chose en rapport avec la science, signent ensemble cette tribune à France Télévisions pour rappeler au service public ses missions. Parmi ces associations, je citerai l'association des journalistes de la presse étrangère, puisque ils sont aussi inquiets de ces disparitions en cascade d'émissions emblématiques, notamment sur France Télévisions, puisque la dernière annonce en date, c'est la disparition de Vert d'Orage, qui était sur le long terme, une émission sur le long terme qui existait depuis 2018.
De reportages
sur la pollution dans le métro, sur l'amiante, enfin sur toutes sortes de sujets qui ne sont pas forcément des sujets d'environnement, parce que maintenant on a un peu tendance à se verdir et à faire des émissions environnement-climat, mais la science, ça n'est pas que ça. On a besoin de journalistes spécialisés. Personne ne s'improvise journaliste scientifique. C'est un métier. Il faut savoir lire des études. Il faut avoir des notions de statistiques. Il faut avoir des bases. Donc nous, journalistes scientifiques et journalistes apparentés qui travaillons sur ces sujets, nous sommes extrêmement inquiets de ce qui est en train de se passer dans le monde.
Par exemple, Carole, à France Télévisions, il y a aussi la suppression, alors là c'est plutôt côté médecine, mais du magazine de la santé.
Exactement. C'était une annonce qui nous avait alertés. À l'époque, c'était l'objet de notre première tribune. Depuis, il y a donc Vert d'Orage, il y a les pouvoirs extraordinaires du corps humain, il y a C'est Jamy, qui était une émission, qui a duré un an et demi, qui était de très grande qualité. Et puis surtout aussi, ce qui nous inquiète, c'est que nous voyons apparaître des émissions de talk show sur le service public, avec des invités qui, pour nous, sont tous sauf des experts scientifiques, mais qui se disent experts scientifiques. Et le grand public, qui a une grande confiance dans les journées scientifiques. Ça, c'est une étude est sortie qui qui le montrent, hein, vraiment, il y a une grande confiance dans nos professions, eh bien, le public est perdu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trier le bon grain de l'ivresse si on n'est plus capable de donner la parole et de faire des enquêtes qui tiennent la route et qui savent lire des études et qui savent aller les chercher et qui n'invitent pas sur les plateaux des pseudo-experts. C'est comme si nous n'avions pas tiré les leçons de ce que nous avons vu sur le Covid.
C'est ça, on a vraiment remarqué à quel point il était important d'avoir des journalistes spécialisés en santé, en médecine, pour ne pas inviter, allez, on va dire un épidémiologiste pour parler de virologie et vice-versa.
C'est voilà, ça, exactement. Gros, hein. C'est comme si tout ça avait été balayé, pourtant Dieu sait que ça avait été remarqué à l'époque et cela avait été dit. Donc c'est pour ça que ces 9 associations qui n'ont, je le répète, jamais encore signé de tribune en commun se sont donc regroupées pour alerter France Télévisions, lui rappeler ses devoirs de service public, parce qu'il a un devoir d'information. Et si lui ne le fait pas, qui va le faire. Alors après, dans le privé, là aussi, nous alertons. Il faut former les rédactions et les rédacteurs et les journalistes à la culture scientifique. C'est ce que nous proposons, nous, la JSPI, notamment Radio France. Nous avons tout un système de formation pour que les journalistes aient au moins les bases. Et nous demandons des référents dans chaque rédaction, des référents scientifiques. C'est absolument fondamental.
C'est fondamental. Et vous insistez sur ce mot que moi, j'aime beaucoup, la culture scientifique. À quel point c'est important, au fond, de la cultiver, de la préserver sur le temps long. On peut dire qu'à RFI, on est aussi concerné. Moi, je ne peux pas être à la fois juge et partie, donc je m'abstiens. Mais finalement, comment accorder plus de place à la science et au développement de cette culture scientifique qui est indispensable aujourd'hui,
vous l'avez indispensable dit, et chacun des invités et des journalistes qui sont autour de cette table le savent et sont tous des journalistes scientifiques extrêmement sérieux qui travaillent dans des magazines de vulgarisation qui font un travail qui est vraiment indispensable. Il faut que les radios fassent le même, il faut que les télévisions fassent ce même travail, il faut que les réseaux sociaux soient également qu'on trie là aussi le bon grain de l'ivraie.
Il faut faire attention. C'est un youtubeur de science, mais il y en a d'autres qui ne sont pas.
Je répète, la science, ce n'est pas que de l'environnement. La science, c'est de la physique, c'est de l'astrophysique, c'est de l'énergie. Et la case science grand format de France Télévisions est beaucoup trop réduite pour aborder toutes ces disciplines. Donc, nous perdons là un véritable vivier d'informations que le grand public doit connaître.
Un commentaire peut-être, Fabrice Nicot
Ah oui, alors moi je suis parti, mais je peux que être d'accord avec ce que vient de dire Carole. C'est-à-dire, en fait, la science n'est pas facultative. Je vois pas pourquoi. C'est comme si demain France Télévisions choisissait de ne plus traiter la politique, l'économie ou les relations internationales. La science fait partie intégrante de notre vie, de notre quotidien. Je dirais même de plus en plus, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux de société qui sont reliés directement à des questions scientifiques. Et donc, il faut que les citoyens puissent se faire une opinion. Et pour ça, ils ont besoin d'émissions de qualité et pas seulement de journaux de qualité.
Ben, on va continuer du coup. Vive la culture scientifique, vive la science. Hein, Carole Châtelain, merci d'être venue nous le rappeler. Hein.
Exactement. Vive la science et surtout défendons le journalisme de qualité.
Alors, on ne peut être que d'accord avec vous. Je vous renvoie, chers amis auditrices et auditeurs, sur cette tribune dans Libération, paru le 24 avril, signée, on l'a rappelé, par 9 associations de journalistes, dont la nôtre, Carole Châtelain, la JSPI. Autour de la question comment la science infusée se diffuse sur RFI, on ne lâche rien et on en veut encore un peu plus. Avant de remonter le temps jusqu'à la première seconde de l'univers, carrément, avec vous, Fabrice Nicot, dans Science et Avenir, on demande juste encore une minute, dans la voix douce et cassée de Carla Bruni sur RFI.
Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas, quand je serai si vieille que je ne voudrai plus de moi, quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse, et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse, quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai écoute, laisse-moi juste une minute, juste encore une minute, juste encore une minute, pour me faire une beauté ou pour une cigarette, juste encore une minute, juste encore une minute, pour un dernier frisson, pour un dernier geste, juste encore une minute, juste encore une minute, pour ranger les souvenirs avant le grand hiver, juste encore une minute, sans motif et sans but, puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ces déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute.
tic-tac, la dernière minute de Carla Bruni, s'il vous plaît, sur RFI, en clin d'œil autour de la question comment la science infuse et se diffuse à la première seconde de l'univers. C'est à la une, c'est aussi le dossier de Science et Avenir. Sous votre plume, Fabrice Nicot, alors jusqu'où peut-on remonter le temps, jusqu'au temps zéro de l'univers, à la première seconde et même avant?
Alors, le temps zéro, soyons modestes, on ne le connaîtra probablement jamais. Mais faut pas être déçu parce que la première seconde elle-même est très chargée, puisqu'on peut dire que l'univers passe d'un état d'ailleurs qu'on ne connaît pas tout à fait au début, mais ensuite on va dire que c'est une sorte de bouillasse d'énergie, voilà, jusqu'à, avec une seule grande force unifiée, etc., jusque... en moins d'une seconde en réalité, hein, jusqu'à ressembler vaguement à ce que l'univers va devenir par la suite, et à notre univers. En fait.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au fond, la première seconde, elle est essentielle, on peut le dire, parce que c'est l'inflation de l'univers, la formation des toutes premières particules élémentaires et tout ça, dans cette première seconde après le Big Bang.
Oh oui, même effectivement beaucoup moins, puisque, donc on va dire, on ne peut pas remonter au-delà de 10⁻43 secondes, hein, ça c'est le mur de Planck, là vraiment on n'a pas les théories qu'il faut.
Pour pas de temps zéro, on l'a bien compris.
Voilà, hein, pour décrire. Mais ensuite, effectivement, il y a cette période absolument extraordinaire qui était d'ailleurs un des moteurs pour réaliser ce dossier, qui est l'inflation cosmique, hein, durant lequel l'univers passe de la taille, il faut s'imaginer, pratiquement de la taille d'un atome à une année-lumière. Tout ça en 10⁻32 secondes. Enfin, c'est des chiffres hallucinants. C'est quand même le phénomène le plus extraordinaire qui ait secoué l'univers à cette époque. Et c'est un sujet de recherche très actif et qui m'avait été soufflé finalement par Vincent Venin, qui est un cosmologiste à l'École normale supérieure et qui m'avait expliqué à l'époque, on discutait d'autres choses d'ailleurs, et il m'avait dit « Ah, je viens de publier l'Encyclopédia Inflationaris » où il recensait toutes les tentatives d'explication de cette
inflation
fabuleuse
primordiale.
Inflation. Il y en a plus de 80, ça fait 800 pages.
Et une inflation qui, en plus, continue et ne cesse de s'étendre.
Alors, oui. Alors, elle a eu une période qui dure très peu de temps et qui va permettre à l'univers... De gagner en espace, hein, puisqu'au départ, c'est vraiment quelque chose d'infiniment confiné. Et ensuite, effectivement, elle va se calmer, et c'est l'expansion de l'univers qui va prendre le relais, avec des mécanismes, c'est toute la difficulté, mais c'est là où c'est intéressant. L'inflation, on a plusieurs hypothèses que j'évoque, mais notamment, hein, c'est celle un peu... peut faire un petit peu peur comme ça, mais il faut se plonger dans le dossier, vous verrez. C'est de champ scalaire, hein, donc c'est vrai que c'est à la frontière des mathématiques, mais moi je trouve ça très intéressant, parce que vous voyez, tout se mêle vraiment au début de l'univers, la physique, les maths, tout ça est ensemble, mais où on a donc ce champ d'inflaton comme ça qui dilate l'univers follement, et puis ensuite il convertit toute son énergie, une fois qu'il a fini de dilater à la fin de l'inflation, en particules, c'est une énergie qui va être... Donc en fait, on est des...
Nous sommes faits de ces briques élémentaires.
Des rejetons de l'inflaton. Et ensuite, alors...
Nous sommes des rejetons de l'inflaton, c'est l'inflaton,
poétique. Mais, oui, oui. Et ensuite, donc, on a l'expansion de l'univers qui continue. Alors, c'est d'ailleurs un dossier qu'on avait abordé, c'est aussi l'énergie noire, puisqu'on constate aujourd'hui que cette expansion est en accélération. Et à ce moment-là, on se demande s'il n'y a pas des mécanismes cousins entre l'inflation cosmique et l'énergie noire.
Cette fameuse énergie noire. Et il y a aussi, vous parlez de l'infiniment petit, l'univers qui est infiniment petit, la formation des premières particules élémentaires. Donc on est vraiment dans l'infiniment petit qui va devenir infiniment grand et retour, si j'ose dire.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure dans cette seconde si chargée, puisque effectivement, hein, donc l'inflaton... l'énergie de l'inflaton à la fin de l'inflation se convertit en particules qui au départ forment un amas grouillant, hein, c'est des quarks qui bougent dans tous les sens, etc. Ils sont très compacts.
La soupe cosmique.
Voilà, Exactement, une soupe cosmique très chaude et qui va commencer à se refroidir. Les quarks vont commencer à s'organiser pour former et s'apparier comme ça pour former des sous-éléments. Ça va être les protons et les neutrons hein, qui vont, vous voyez, on commence vaguement à entendre des noms un peu plus communs aujourd'hui. Protons, neutrons qui vont donner ensuite
les électrons.
Et surtout les atomes qui vont venir encore après dans les 3 premières minutes qui suivent.
Tout ça, ça se passe en 3 minutes, au tout début de l'univers. Et pourquoi c'est aussi passionnant que ça? Pourquoi ça intéresse aujourd'hui autant les cosmologistes, les astrophysiciens? Parce que c'est là, au fond, que tout a commencé. Et puis, c'est là où il faut remonter aujourd'hui.
Oui, c'est la quête des origines. Donc ça nous touche tous. Mais alors, ce qui est le plus extraordinaire, peut-être dans cette affaire, c'est que l'inflation, on en cherche aujourd'hui des traces. Donc ça s'est passé il y a 13,8 milliards d'années et on espère en trouver des traces grâce à ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, qui sont des vibrations de l'espace et du temps. On se doute bien que cette formidable inflation qui a eu lieu au tout début, elle a sacrément secoué l'espace-temps.
Et qu'il en reste des traces.
C'est quand même émouvant de penser qu'un certain nombre d'instruments vont se mettre à traquer comme ça ces reliefs des soubresauts, des tout premiers soubresauts de l'univers. C'est un mélange finalement des origines et de notre présent. Là,
et de nos découvertes aujourd'hui. On découvre aussi l'étendue de notre ignorance, mais on arrive à détecter ces fameuses ondes gravitationnelles et donc à remonter au tout début de l'univers.
Voilà, alors il y aura plusieurs choses, c'est-à-dire on va essayer de retrouver effectivement le passage de ces ondes gravitationnelles, mais on pense aussi que ces ondes gravitationnelles ont laissé une trace en passant dans ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, dont on parle souvent ici, qui est la toute première lumière vraiment émise dans l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Donc c'est bien après tout ça. Mais ces ondes gravitationnelles ont probablement laissé une empreinte, une trace dans le fond diffus cosmologique que l'on va essayer de découvrir. C'est ce qu'on appelle la polarisation.
Et ben, dossier extraordinaire à lire. La première seconde de l'univers et même avant, c'est à la une de Science et Avenir, signé par vous, Fabrice Nicot, avec Evrard Wissem El-Jouhari.
Tout à fait.
Dans Science et Avenir. Voilà. Et vous nous avez apporté, évidemment, quelques exemplaires de Science et Avenir qui seront pour vous cadeaux, chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale autour de la question comment la science infuse, avant de nous laisser absorber par les trous noirs. Avec vous, Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace, on continue de se demander avec Richard Bonnard, extrait de la playlist de RFI, il y avait quoi avant?
On avait Cameroun Airlines.
Yeah, combi.
La régie faire come
and go.
Saudé K.O. dans l'eau.
Wop, allô.
La sonnelle est partie.
Chéné.
Fonadère, on a mis à terre.
Mec de.
Kamchi avec roi bateau.
Que quoi?
Aujourd'hui c'est dans l'eau.
Hey.
Sophie Belle, Ina Bellabo.
Subhanallah.
Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? On avait sauté que c'est cadu. Une alors on n'allume plus.
Ça chauffe plus.
Roi docteur, c'est le couvre-feu.
Là alors.
Les enseignants sont matés.
Ah, ça.
Qui a brûlé la sonara?
Hey.
Soudain Kamo en Konja. Soudain Blé en Gandere. Et la CNTS fait la muette.
Woko, 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 man. Le ninja va parler.
Moyen,
42 ans au pouvoir. Plus jamais ça. 42 ans de misère. Nous voulons plus. Les fontaines publiques étaient là. Maman, on avait ça. À 25 francs, je prends son duc. Maman, c'était le prix. Je vais parler. Il n'y avait pas besoin de tribaliser, même pas d'ératiser. La CNI, on avait ça. C'est pas comme maintenant. Avec Pakakoe, Unagoe. Woko, Unagoe. N'allez pas au Nozo Ninjadi. Vous vous êtes entêté. Oyanga Zogwanzal et Balade. Okake ma cornisique. Avec Pakako, Unagoe. Woko, dégagé.
Il y avait quoi avant? Richard Bonnat, le grand Richard Bonnat, dans la playlist du mois sur RFI. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse jusque dans les trous noirs, cher Philippe Hénarejos, dans ciel et espace, vous voyez des trous noirs partout, enfin il y en aurait. Il y en aurait peut-être partout et même plus proche de nous qu'on ne le pense.
Et il y en aurait partout, c'est pas qu'on ne les voit, c'est justement qu'on ne les voit pas.
Et ben voilà, c'est ça le problème avec les trous noirs.
Hein. On est parti en fait d'un petit papier qu'on avait fait sur notre site web, qui parlait de l'amas d'Eyade. L'amas d'Eyade, c'est un amas d'étoiles relativement jeune qui est très proche de la Terre, 150 années-lumière.
Oh, donc, c'est rien, ça.
Non, mais à l'échelle de la galaxie, c'est rien, c'est des voisins. Et donc, cet amas, donc c'est un lieu où se sont formées des étoiles, que l'on voit très bien, on le voit à l'œil nu, d'ailleurs, l'amas d'Eyade, pas besoin d'un télescope pour ça. Et une équipe a suivi, grâce au satellite Gaïa, les mouvements de ces étoiles, pour la première fois en 3D. C'est-à-dire que jusque-là, on avait quand même des doutes sur les mouvements dans la profondeur de ces étoiles-là. Donc ça a pu être analysé de manière très précise. Et on s'est rendu compte que statistiquement, pour que les mouvements qu'on observe soient ceux-là, il fallait qu'il y ait eu des trous noirs à l'intérieur. Au moins 2 ou 3 trous noirs stellaires, c'est-à-dire des étoiles massives qui sont arrivées rapidement au bout de leur vie, en quelques millions d'années, et qui ont explosé en supernova. Et le résidu qui reste au cœur, c'est un trou noir. C'est ce qu'on appelle un trou noir stellaire.
Et donc, il y en aurait deux ou trois.
Et mieux que ça, dans l'explosion, comme on sait que les explosions de supernova ne sont pas symétriques, ils auraient été éjectés. Ils ne seraient pas restés à l'endroit où ils étaient. Et donc,
Où sont les trous noirs?
Et en plus, si on calcule 150 années-lumière, la scène s'est passée il y a environ 200 millions d'années, vu la vitesse d'éjection, etc. Si jamais ils avaient été éjectés vers le système solaire, ben, ils devraient être là.
Donc ils seraient là et on ne le saurait pas.
On ne les verrait pas parce qu'ils sont des trous noirs isolés, tout seuls. Ce qui fait qu'on voit un trou noir, c'est qu'il est entouré de matière, c'est qu'il y a du gaz autour, qu'il accrète ce gaz généralement dans un disque qui tourne de plus en plus vite, qui est échauffé. Ce gaz échauffé, il crée de la lumière. Et c'est cette lumière qu'on voit qui signale le trou noir. C'est de la lumière normalement aussi en rayon X, enfin, qui permet d'expertiser le fait qu'on a vraiment un tore de matière très chaud, qui dit qu'au centre, il y a un trou noir. Le trou noir, lui, évidemment, on ne le voit pas, puisque la lumière ne peut pas s'en échapper. Mais il est signalé par ce tore de matière chauffée ou par un compagnon stellaire, comme c'est souvent le cas. Mais 80% des trous noirs, c'est une statistique, seraient tout seuls, isolés.
Et donc, on ne saurait pas, on ne pourrait pas savoir qu'ils existent. Voilà. Ils pourraient être près de nous.
Et autre, en creusant un peu, on s'est aperçu que... encore une fois, ce sont des statistiques faites par des astrophysiciens. Sur l'ensemble de la Voie lactée, notre galaxie, il y aurait environ 100 millions de trous noirs, comme ça, donc 80 millions qui seraient dormants. Et que si on regarde un peu, en fait, ça en fait un tous les 50 années-lumière, ce qui n'est pas énorme.
Ce qui est pas mal. Et donc, ils seraient dormants.
Forcément, ils sont là.
Forcément, ils sont dormants.
Voilà. Donc, on s'est prêté un petit jeu dans ce dossier de plus de 20 pages qu'on a fait dans Ciel Espace.
Un guide du parfait explorateur de trous noirs.
Voilà, exactement. Comment faire pour les observer? Et surtout, on s'est amusé à un autre petit jeu, c'est que ferions-nous si nous avions la chance d'être à côté ou d'avoir une sonde qui serait...
Oui,
parce qu'alors, il ne faut pas avoir peur des trous noirs comme ça. ce sont des astres, après tout. Et ils nous soumettent à leur gravitation. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'en approcher trop près.
Parce que sinon, on est absorbé.
Il y a un endroit où, si vous approchez trop près, vous ne pouvez que plonger et ne jamais en ressortir.
Donc, si vous restez
à une distance respectable, vous pouvez très bien avoir une orbite stable et non dangereuse autour d'un trou noir. Et donc, on a posé des questions aux chercheurs. Qu'est-ce qu'ils feraient si jamais ils avaient une sonde à placer en orbite autour d'un trou noir? Alors, il y a différentes sortes de trous noirs en plus. Il y en a qui peuvent se cacher en creusant encore. On s'aperçoit qu'il y avait ces fameux trous noirs primordiaux. théorisés par Stephen Hawking, qui sont tout petits, qui sont peut-être de pas une masse terrestre, qui feraient, je vous le dis comme ça, c'est dans le dossier, 18 mm de diamètre. La masse de la Terre contenue dans moins de 2 cm de diamètre. Donc cela, pour les voir, c'est compliqué. Et il pourrait y avoir ce type de trou noir, selon une équipe qui a fait une étude, au centre de certaines étoiles. Parce que forcément, comme ils sont primordiaux, ils ont été créés peu de temps après le Big Bang, à cette époque dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ils ne sont pas très massifs, mais ils sont quand même très denses. Donc, ils peuvent agglomérer un peu de la matière et des étoiles auraient pu se former autour d'eux. Par exemple, il pourrait y avoir un trou noir comme ça au cœur du Soleil. Personne n'en saurait jamais rien. Alors, on se dit, mais c'est la fin. S'il y a un trou noir au milieu du Soleil, le Soleil va disparaître. Et en fait, si on fait les calculs, un petit trou noir comme ça, ça met plusieurs milliards d'années à absorber l'étoile. Donc on ne s'aperçoit de rien pendant très 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 longtemps.
C'est extraordinaire. Et c'est de la science, c'est pas de la science-fiction.
Ah non, c'est de la science. Mais évidemment, c'est spéculatif. Je ne suis pas en train de vous dire.
On est d'accord.
Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un trou noir primordial au cœur du Soleil.
Mais peut-être.
Mais c'est une hypothèse tout à fait raisonnable. Et les conséquences ne se verraient qu'à la fin de vie de l'étoile, puisque quand même ça absorberait une partie de la matière de l'étoile et ça modifierait son destin.
Donc on a le temps, voilà. Et donc vous proposez, je le rappelle, un guide du parfait explorateur de trous noirs. N'ayez pas peur, voilà. Ça. En tout cas, dans ce qu'il y a l'espace, ça
ne fait pas de mal. On a même demandé à des chercheurs de calculer ce qui se passerait si un trou noir de telle ou telle masse passait à travers le système solaire. Vous vous souvenez d'Oumuamua, cet astéroïde
devenu. Oui, cette espèce d'étrange astéroïde.
Si un passait comme ça.
Un trou noir qui passerait dans notre
même
système solaire.
Même à une certaine distance, est-ce que ça éjecterait les planètes, tout ça. Le petit jeu était très intéressant.
Et alors
ça dépend où il passe. Évidemment, mais si passe, oui, il faut lire, s'il passe assez loin, les orbites seraient rendues un peu instables et il y aurait peut-être quelques éjections. S'il passe carrément au milieu, là, il y a du souci à se faire immédiatement.
D'accord, à découvrir en tout cas dans Ciel et Espace, numéro 595, le dossier Trou Noir et s'ils étaient tout proches. Ciel et Espace, je le rappelle, disponible en kiosque chez votre marchand de journaux et en cadeau pour vous si vous avez de la chance et que vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question comment la science infuse. Accrochez-vous car on va bientôt embarqué pour un voyage au centre de la Terre avec vous, Vincent Nouiréga, dans ce numéro du mois de mai d'Epsilon. On y arrive juste après un détour, comment dire, un peu rock'n'roll sur Terre-Neuve. Morceau signé Brigitte Fontaine en personne sur RFI.
Terre-Neuve, lit de morue, champ de diamants. Terre-Neuve, ange qui tue, charbon ardent, Terre-Neuve, lac de glaçons, cri de dragon, Terre-Neuve, d'amour.
Terre-Neuve et le rire de Brigitte Fontaine sur RFI autour de la question comment la science infusée se diffuse jusqu'au centre de la Terre. Jules Verne, sortez de ce corps, c'est bien vous, Vincent Nouirega, en face de moi, voilà, du mensuel Epsilon, qui nous entraînait dans un premier voyage virtuel au centre de la Terre, une plongée jusqu'au noyau totalement brûlant de notre planète. On y va par étapes.
Hein. Oui, on y va par étapes. C'est effectivement un voyage virtuel et mental, parce que pour le coup, on a seulement gratté la surface de la planète. Le forage le plus profond, le forage physique le plus profond a été fait par les Soviétiques. Il atteint 12 km de profondeur. C'est vraiment rien du tout, hein, parce que pour atteindre la graine, la petite graine au cœur de la Terre, il faut traverser 5000 km de roches. Et puis aussi un océan de fer liquide bouillonnant.
Ouais, terrifiant ça, un océan de fer liquide.
C'est ce qu'on appelle le noyau externe, qui fait à peu près 2000 km d'épaisseur, qui est traversé par des courants assez lents. Hein. C'est comme dans les abysses des océans. Donc c'est des courants un peu majestueux avec beaucoup de champs magnétiques, beaucoup de forces un peu bizarres qui ne sont pas toujours très bien identifiées. Et après, on arrive à cette fameuse graine, cette espèce de ce qu'on peut appeler aussi une planète intérieure.
À l'intérieur de la Terre. Enfin, ouais, le noyau, c'est une sorte de planète intérieure.
On peut le dire comme ça. Alors, c'est à peu près c'est le rayon de 2200 km, donc c'est le rayon de Pluton, on va dire. C'est l'équivalent de Pluton en taille. Après, il se passe des phénomènes un peu spéciaux. Alors, ce sont des résultats qui sont assez récents parce que c'est lié à des progrès en sismologie, en simulation numérique et aussi en expérience pour arriver à reproduire ces conditions dantesques qui sont tout à fait extraordinaires, où il fait plus de 5000 degrés.
Waouh ! À l'intérieur de notre Terre.
Voilà,
hein.
Donc c'est à peu près la température de la surface du Soleil, on va dire. Il y a 3 millions de bars, donc 3 millions de fois la pression atmosphérique, donc c'est à peu près 30 tonnes par millimètre carré, un truc comme ça. Et donc ce sont des conditions très, très particulières. Et c'est une planète un peu particulière parce qu'on suppose... Alors, il y a des mesures sismiques qui suggèrent qu'il neigerait du fer. En fait, il y a une cristallisation du fer à la surface.
Il neigerait du fer à l'intérieur de la Terre. Hein.
C'est ça. Et à la surface de cette planète intérieure, donc qui se dépose... alors, cette graine, cette planète intérieure, elle grandit à peu près de 1 mm par an.
Le noyau grossit.
Ouais, le noyau grossit légèrement. Ça va, on a le temps que ça se solidifie totalement. Après, il y a des choses un peu bizarres. C'est pas tout à fait... les propriétés des cristaux sont pas les mêmes que ce soit à l'est, dans l'hémisphère est. Alors, on raisonne hémisphère est et hémisphère ouest et pas hémisphère nord et hémisphère sud sur cette planète-là. Les cristaux de fer qui composent ce noyau, donc là, on est vraiment sur une planète de fer, de nickel, après d'autres éléments légers qui font l'objet de débats. Et donc, l'hémisphère est n'est pas pareil que l'hémisphère ouest. À l'intérieur de cette graine, il y aurait peut-être aussi une autre graine, c'est-à-dire qu'il y a une
autre
hétérogénéité.
Petite planète à l'intérieur de la petite planète qui est à l'intérieur de notre Terre.
Non, peut-être pas une planète, mais en tout cas, il y a les propriétés sont différentes. En tout cas, les dernières mesures sismiques montrent qu'à l'intérieur, à peu près à mi-chemin de cette épaisseur de petite planète, on a des cristaux de fer qui s'assemblent de manière un peu différente. Il y a aussi une rotation qui lui est propre. Alors, ce qui n'est pas si étonnant que ça, puisqu'elle est dans un bain de fer, et donc elle tourne en même temps que la planète, mais parfois elle a une petite surrotation, c'est-à-dire elle tourne un petit peu plus vite que la Terre, et elle se retourne dans l'autre sens. Elle a parfois une sous-rotation, donc il y a des petites oscillations comme ça qu'on découvre depuis quelque temps, hein, depuis quelques années.
Grâce à des instruments de sismométrie.
Alors là, c'est de la sismologie sur des failles qu'on appelle des doublets ou des triplets, c'est-à-dire ce sont des séismes qui ont lieu sur la même faille ou alors éventuellement des essais nucléaires qu'il y a eu à l'époque qui étaient sur le même site. Et on voit la propagation des ondes à l'intérieur qui traversent la Terre et on se rend compte que parfois, on n'a pas du tout le même profil. Et donc, ça veut dire que peut-être que la planète intérieure a bougé, tout simplement. Parce qu'on est au même endroit, normalement, on devrait voir la même chose si elle tournait en même temps que nous, en même temps que le manteau terrestre. Et donc, il y a ces petites choses-là. Donc, elle a sa rotation propre et aussi, elle a une petite inclinaison. Alors, c'est vraiment un tout dernier papier qui est publié il y a quelques semaines de la part des Chinois, de chercheurs chinois, qui montrent qu'il y a une légère inclinaison de 0,1 degré. Alors, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'axe de rotation de la Terre, mais ça a son petit effet. Ça a des effets. Alors, bizarrement, on est en train de se rendre compte ça reste encore un peu spéculatif. Mais oui. on se rend compte que la graine pourrait avoir une influence aussi en surface de la Terre. Alors, il y a quelque chose qui est bien établi, c'est que ces petites rotations-là et même les comportements dans le noyau ont une influence sur la vitesse de rotation de la Terre. Ça se joue en quelques millisecondes. Ce n'est pas grand-chose, même si les astronomes ils sont sensibles et pour des questions aussi de temps universel, enfin des choses un peu compliquées à gérer, pour, mais, qui sont gérées à l'Observatoire de Paris. Mais on se rend compte aussi, il y a quelques résultats tout à fait récents qui disent que, tiens, c'est bizarre, on a des oscillations d'une période de 6 ans, de 8 ans, de 60 ans éventuellement.
De ce noyau terrestre.
Qui correspondent à des oscillations du niveau des mers, des variations du niveau des mers, des variations du climat, des températures, des variations du niveau des nappes phréatiques. Alors les gens se demandent, est-ce que ce sont de simples corrélations et de simples coïncidences, parce qu'effectivement, même El Niño a une période qui dirige un peu le climat terrestre, à une période entre 2 et 7 ans, donc c'est peut-être un peu 6 ans aussi.
Où est-ce qu'il y a un lien de cause à effet?
Donc là, ça intrigue énormément
donc,
les chercheurs.
Donc, un champ de recherche considérable, à la fois avec des outils très sophistiqués et avec du virtuel aussi, évidemment, pour simuler.
Alors, il y a des simulations numériques. Ça, c'est des simulations chimiques même qui commencent à arriver à simuler des milliers de molécules dans ces conditions extraordinaires qui sont difficiles à reproduire. Il y a quelques expériences qui s'en approche ces derniers temps. Et effectivement, ces nouvelles méthodes aussi sismiques qui permettent de capter les petites réverbérations quand les ondes sismiques traversent la Terre d'un bout à l'autre. Parfois, elles le font plusieurs fois, elles font plusieurs allers-retours. Il y a des petites réverbérations quand elles rentrent à l'intérieur du noyau, des petites irrégularités, des petits échos, des chambres d'écho. Et on arrive à les analyser comme ça avec des nouvelles méthodes.
Voyage extraordinaire au centre de la Terre, chers amis auditrices et auditeurs, c'est dans Epsilon de ce mois de mai, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir. Et ce n'est pas tout, car je crois que vous voulez aussi, Vincent Nouirega, dire un tout petit mot du MOOC Voyageurs Vagabonds d'Epsilon. Vous nous aviez embarqué sur la Lune premier MOOC, et cette fois-ci, c'est dans la forêt.
Dans la forêt, c'est l'appel de la forêt. On a une petite campagne là sur Ulule pour précommander ces numéros-là, et le numéro est sur le point d'être bouclé. Donc c'est 200 pages d'immersion dans la forêt, de la lisière de la forêt, avec plein d'images scientifiques, mais aussi beaucoup de culture.
Autour de la forêt et des forêts du monde. La forêt, le prochain MOOC d'Epsilon. À suivre, alors, une autre forêt, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la forêt amazonienne et des cités perdues d'Amazonie. Ces cités jardins redécouvertes par un archéologue passionné et passionnant, Stéphane Rostin, qui révèle une autre histoire de l'Amazonie. C'est vous, François Sabatier, qui allez nous faire partager cette aventure dans Pour la Science. Et sur RFI, juste après, cette remis un peu dans l'ambiance, comment dire, amazonienne avec Christine and the Queen. C'est Amazoniaque sur RFI.
Tes bras qui m'en serrent, c'est bien là que je me perds. Les Indiens d'Amazonie attrapent au cœur des maladies. Contagion express envoyé par courrier civilisé. Les pistes étaient rouges, banlieue nord, je bois un verre. sonne. Au trou noir de l'espace, les avions de chasse sont disparus. Minuit d'insomnie, je me perds dans les forêts d'Amazonie. Au bout de tes cuisses, une ombre cicatrice, Amazonie.
Amazoniaque version Christine and the Queen sur RFI de circonstance. Pour ouvrir la une et le dossier de Pour la science consacré sous votre plume, François Savatier, aux cités perdues d'Amazonie. Les forêts d'Amazonie ont été peuplées par les hommes il y a bien plus longtemps qu'on le croit. Et il n'y a pas que les Incas et les grandes civilisations précolombiennes en Amérique du Sud.
Oui, Caroline. En fait, l'idée est très ancrée que les Européens, quand ils sont arrivés en Amérique du Sud et qu'un siècle plus tard, à peu près, ils ont commencé à pénétrer dans la forêt amazonienne. Ils ont pénétré dans un espace vierge qui n'était habité que par des chasseurs-cueilleurs qui représentaient en quelque sorte l'état primitif de l'humanité tel qu'on se l'imaginait au XXe siècle. En fait, les Européens ont pénétré dans une civilisation, un immense paysage culturel qui, peut-on dire, avait été largement vidé de sa population par le cocktail de virus et de bactéries qu'ils avaient aussi amené avec eux depuis l'Ancien Monde.
C'est ça. Donc en fait, le débarquement, si j'ose dire, et la conquête entre tous les guillemets possibles de la forêt amazonienne s'est faite sur des terres qui étaient déjà occupées depuis des milliers d'années.
Depuis 10 000 ans au moins. Et on estime que le cocktail de bactéries de virus européens a fait disparaître de 70 à 90% d'une population américaine. Là, je parle des deux Amériques, estimée à 100 millions de paysans surtout.
De et paysans donc, qui avaient transformé les terres en cités et en cités vertes, en cités
exactement,
jardins.
Exactement. Ils ont fondé dans la forêt une myriade de cultures terrassières qui se remarquent aujourd'hui quand on sait regarder, et c'est ce qu'a fait Stéphane Rostin, par des barrages, des routes, des complexes de temples, etc. Et c'est pour ça que ce que Stéphane Rostin et son équipe ont mis en évidence dans un coin de cette forêt qui se trouve au piémont du terrible volcan du Sangay en Équateur, je crois qu'on dit Sangay, c'est une sorte de Pompéi, carrément une civilisation disparue.
Une civilisation disparue et dont on ignorait tout. Enfin, on ne savait même pas qu'elle avait existé.
On n'ignorait pas tout. On avait vu quelques maisons, on avait trouvé quelques poteries. Mais de là à réaliser, comme l'a fait Stéphane Rostin, que dans le site qui a été exploré pour le moment par des méthodes avancées d'aujourd'hui, il y avait une sorte de conurbation qui occupant pas moins de au moins 600 km² dans la forêt.
Donc avec des routes, des villages, des villes
Une sorte de cité-jardin où des complexes de temples organisent des sortes de villages, vais-je dire, reliés par des routes. Et entre ces endroits où la densité d'habitat est plus grande, il y a des champs qui sont drainée, extrêmement aménagée.
Donc l'Amazonie n'était pas vierge, la forêt amazonienne n'était pas vierge. Et c'est vraiment grâce à des techniques, vous en avez dit un mot, notamment de LIDAR, qui permettent de survoler ces zones et de repérer les traces de ces civilisations totalement oubliées.
Oui, le LIDAR est un peu l'équivalent du radar, mais dans, dans un autre spectre de longueur d'onde, qui permet, quand on fait circuler suffisamment d'ondes entre un capteur et le sol, à la fin de pouvoir reconstituer par un traitement informatique la surface du sol en se débarrassant de ce qui empêche de le voir. Et c'est comme ça que Stéphane Rostin, grâce à une campagne LIDAR qui a été commandée par le gouvernement équatorien, a pu réaliser qu'il y avait là toute une culture, une civilisation, l'une des civilisations amazoniennes. Et c'est d'autant plus intéressant que dans le même numéro, j'ai interviewé Claire Lanneau du CIRAD, qui, elle, est une généticienne, et elle a reconstitué de quelle façon s'est passée la domestication du cacaoyer. Et donc, ce qu'elle a mis en évidence, c'est que le cacaoyer a été domestiqué pour la première fois dans cette région, au sud de la vallée de Lupano, dans laquelle se trouve cette civilisation dont nous parlons.
L'Équateur aujourd'hui.
En Équateur aujourd'hui, et je crois aussi en Bolivie, mais je n'en suis plus sûr. Et dans cette région où on circulait beaucoup, il y avait des routes, eh bien, des plants de cacaoyer sont parvenus au Pérou, et de là, par la mer, en Mésoamérique, qui était la zone où on pensait que le cacaoyer avait été domestiqué. Donc ça illustre en quelque sorte ce que nous devons à cette civilisation amazonienne qui va de Guyane aux Andes.
Et qui a été décimée par la rive occidentale, hein, rappelons-le. Hein, et décimée et totalement oubliée, comme si elle n'avait jamais existé.
C'est ça qui est très curieux. Elle a été totalement oubliée alors qu'en fait elle avait été aperçue, puisque en 1542, Francisco de Orellana, un conquistador qui était en quelque sorte le scribe d'une expédition qui fut la première expédition espagnole à descendre l'Amazone depuis la Bolivie, a écrit, par exemple, « Nous nous dirigeons vers des îles que nous pensions inhabitées, mais lorsque nous les avons atteintes, les habitats qui s'offrirent à notre vue étaient si nombreux que nous en avions les larmes aux yeux. » En fait, le long de l'Amazon,
ça a été vu le long de l'Amazon.
Il y a ce qu'on appelle des terra preta, d'épaisses couches de terres archéologiques qui sont extrêmement fertiles et qui sont donc cultivées et qui sont les restes de ces cultures.
Donc on peut dire un grand merci à Stéphane Rostin, américaniste, archéologue, d'avoir exhumé, remis au jour cette autre histoire humaine, cette autre histoire de l'Amazonie, cette autre civilisation.
Il nous fait comprendre que les choses avaient une ampleur que nous n'imaginions pas.
Nous recevrons, d'ailleurs, nous avons la chance de... Nous recevrons Stéphane Rostin, que vous connaissez peut-être, hein, nous l'avons déjà reçu dans cette émission. Nous recevrons bientôt pour parler justement de ces cités perdues, ces cités vertes d'Amazonie. Et je vous renvoie évidemment sur l'excellent dossier que vous avez signé, François Sabatier, dans Pour la Science, magazine dont nous avons également quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs d'Autour de la Question. Merci infiniment à tout le monde. Merci à François, merci Philippe, Vincent, Fabrice, Carole pour cette infusion de science. Et je propose qu'on se retrouve le mois prochain, le 3 juin exactement, autour de vos magazines respectifs, je les rappelle, Pour la Science, Ciel et Espace, Science et Avenir et Epsilon, qui seront encore une fois mis en jeu et remportés par vous, chers amis auditeurs et auditrices, à l'esprit libre et curieux.
Mes plans se transforment sans cesse, se retrouvent toujours vides de sens, deviennent de l'histoire ancienne, avant même d'entrer dans l'existence. Je vois des gens qui meurent, je vois des gens qui changent, je vois des gentils et des méchants qui se mélangent. Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça, mais je sais, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça.
Pourquoi c'est comme ça? C'est Jacques sur RFI et autour de la question, bah oui, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel et bien sûr vous abonner à notre podcast disponible notamment sur l'application RFI Pure Radio. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, avec Alice Ménard à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses pour nous mettre dans la tête d'un cheval. Oui, un cheval, animal hypersensible aux cinq sens, toujours en éveil. Après avoir écouté Léa Lansade, notre invitée, autrice dans la tête d'un cheval, vous ne le regarderez plus de la même façon. Merci pour votre curiosité, chers amis auditrices et auditeurs à la très grande culture scientifique. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure de retrouver les infos sur RFI.